Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Le Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, le meilleur ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise.
Bonjour à tous, Marc-Claude Duquette à l'animation. Aujourd'hui, comme à chaque semaine, on a les dérangeants. C'est des Carlo Coccaro, Anne Martel ou Louis-François Marcotte. Mais aujourd'hui, j'ai avec moi Étienne Crevier ainsi que Dominique Gagnon. Bienvenue les gars.
Salut!
On est ça en duo, ma foi, d'une
émission. Ouais, on est synchronisés aujourd'hui.
C'est génial.
Souhaitons qu'on ne soit pas
des
aussi alignés dans le débat.
On dit le CA maintenant.
Le CA.
C'est le CA.
On va quand même débattre.
Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, notre CA, c'est savoir bien s'entourer. Mais avant, j'ai ma question dérangeante. Les gars, est-ce que vous avez déjà failli ruiner ou ruiner complètement une relation avec un ami ou la famille pour la survie de votre entreprise?
Oui, complètement. Tu veux y aller en premier ou je me lance?
Lance-toi, t'es déjà bien parti.
Ben écoute, moi, pour la survie de mon entreprise, je ne sais pas si ça aurait eu un lien de cause à effet, mais c'est là que tu vois vraiment les vraies personnalités du monde souvent. Puis c'est là que tu vois les priorités aussi. Parce que le nombre d'anniversaires que j'ai manqué parce que j'étais en voyage d'affaires, parce que finalement, je travaillais jusqu'à 3 heures du matin, tu sais, les gens te le reprochent énormément. T'es tanné, là, de dire « Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, qu'est-ce que tu deviens? Tu donnes pas beaucoup de nouvelles. » Je suis comme « Hey, fous-moi la paix, Colin. » C'est comme, tu sais, on se parle. J'ai pas besoin de tout ça, de cette lourdeur-là dans ma vie. Puis, ça fait un ménage de soi. Tu fais un espèce de sélection naturelle
toi,
dans ton entourage.
Toi, t'as comme coupé des liens avec des gens qui pouvaient pas comprendre.
Putain! Ultimement. Ouais. Puis les gens veulent être dans la limousine quand ça va bien, mais quand la limousine brise, combien veulent être dans l'autobus pour retourner à la maison? Fait que tu le vois souvent quand tu as une coupe de claques d'en face, puis là, tu commences à plus gagner de prix, puis là, t'es en chicane avec tes associés ou avec tes investisseurs. Puis là, les gens, ah ouais, tiens, t'es lourd, hein, ces temps-ci, mon Dieu. Fait que moi, je dirais, honnêtement, c'est pas perdre des amitiés, c'est couper les ponts puis faire des choix sur la vraie nature des gens.
Moi, j'ai perdu des amitiés. Puis tu vois, ça m'a fait la séparation entre arrêter d'être ami avec mes équipes,
ouais.
Arrêter d'appeler ça ma famille.
Ouais, parce
avant,
que c'est pas
avant j'appelais ça ma famille, j'appelais ça... J'étais ami avec tout le monde. Fait que souvent, moi, après le bureau, on allait prendre des bières ensemble, on avait des relations. Aujourd'hui, j'ai un respect complètement fou pour toute mon équipe. Il y a pratiquement personne avec lequel j'ai une relation privée ou une relation à l'extérieur du travail. Et je trouve ça nettement plus confortable parce que moi, j'ai vécu l'aspect de ben OK, on n'est plus aligné sur la même vision d'entreprise, mais on reste des meilleurs amis. Mais la réalité, dès le moment qu'il y a de l'argent, dès le moment qu'il y a l'aspect un petit peu du succès qui embarque à l'intérieur de ça, peut venir de la jalousie, peut venir des disconnexions. Et j'ai perdu des amis, puis quand même assez triste, je dirais, des gens que j'aurais pas nécessairement eu envie de perdre. Mais quand tu rachètes ton associé par shotgun parce que tu n'es pas capable de t'entendre, ben il y a peu de chance que l'amitié perdure. Et ça, moi, j'en ai perdu quand même plusieurs, je dirais, au fil des affaires où j'ai dû prendre des décisions qui sont parfois difficiles. J'ai dû penser à la business avant l'amitié. Et malheureusement, ça en a brisé. Donc, ça fait que je suis peut-être un peu plus détaché aujourd'hui au niveau de l'entreprise et l'amitié.
Ce que j'entends, c'est que les familles, c'est intact.
Oui.
Il y a peut-être eu des tensions. Parfois, il y a un peu de jalousie dans les familles. Mais définitivement, je pense que la famille est quelque chose qu'on protège peut-être un peu plus et qui est un petit peu plus aussi à la base, je pense.
Ben, tu sais, je veux dire, moi, une relève familiale, on s'entend qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des bas. Maintenant, ça va bien, mais ça a déjà été vraiment tough.
Mais toi, t'as-tu, Marc-Claude, perdu des amis pour la business?
J'ai jamais perdu d'amis, mais j'ai décidé consciemment de choisir avec qui je passais du temps.
Ouais.
Fait que, ouais. T'sais, notre temps devient vraiment important. Ouais. Fait effectivement. C'est ce qui conclut notre question dérangeante de la semaine. Au retour, on se retrouve pour notre CA sur l'art de bien s'entourer.
Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
Les dérangeurs! Le CA de la semaine, c'est l'art de savoir bien s'entourer. On sait, ça a l'air que quand on est tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il y a sûrement un dicton en arrière de ça, Étienne, que tu peux sûrement me donner les stats.
Je suis comme la personne référence pour tous les dictons.
C'est notre ressource, oui.
Mais moi, cette semaine, c'est Notorious Big. C'est « More money, more problems », comme il disait. Alors, je pense que c'est en 2007 ou en 2014 dans sa tune. C'est vrai, en fait, qu'on le voit dans les statistiques, 75% des entreprises au Québec, en fait, c'est une association de plusieurs personnes. Puis, c'était Harvard Business Review qui avait fait une étude il y a très longtemps de ça, mais qui ont fait les statistiques de succès Donc, la survie d'une entreprise après 5 ans, c'est ça le succès pour eux, en fait. C'est vraiment pas juste la vente, c'est faut que tu défasses, faut que tu te rendes à 5 années d'existence. Et ils ont regardé les associations avec les fondateurs. Et donc, il y avait des amis d'enfance, des collègues de classe ou des collègues de travail et des purs inconnus. C'était les 3 groupes, dans le fond, dans lesquels ils ont catégorisé les cofondateurs. Et ils se sont vus qu'il y a 7 fois plus de succès, en fait, quand les gens sont des purs inconnus, qu'à la base des collègues ou même des amis d'enfance et de longue date. Donc, c'est de dire vraiment que quand on se lance en affaires, est-ce qu'on choisit les bonnes personnes pour les bonnes raisons? Est-ce que l'émotion vient vraiment nous envahir et qui vient teinter notre jugement pour la suite? Parce que c'est vrai, comme Dr. Hisbig le disait, quand tu mets l'argent dans l'équation, c'est là que tu vois la vraie nature des gens, puis c'est là que les problèmes commencent à survenir. Puis moi, personnellement, je l'ai vécu parce que je suis un people pleaser à côté. On parlait dans l'épisode de la semaine dernière avec Cathy, on est des guidounes qui aiment ça aller se faire masser, mais moi, je suis une guidoune de relations humaines. J'aime pas décevoir les gens et je fais de l'entrepreneuriat pour les relations humaines. Je m'appelle un humaniste, mais probablement qu'aujourd'hui, je serais vraiment plus riche si j'avais été un peu plus trou de cul.
Fait que sais-tu que dans le fond, au secondaire, t'avais pas d'amis? Fait que là, tu t'es dit, je vais me partir en affaires.
Fait qu'ils n'auront pas le choix d'être mes amis parce qu'ils vont être mes employés, puis je vais les payer pour être mes amis, dans le fond. C'est carrément ça.
Il y a quelque chose qu'on dit souvent en affaires, hein. Si tu veux des amis en affaires, achète-toi un chien. ce qui est la réalité, je sais pas à quel point être en affaires, justement, fait qu'on se fait des amis. C'est un peu la question dérangeante, définitivement. Je pense qu'effectivement, les grands succès, puis j'aime la statistique dans laquelle tu disais des inconnus. Pourquoi des inconnus, selon moi, vont avoir plus de succès? C'est que généralement, si tu t'associes avec un inconnu, tu vas avoir cherché quelque chose que tu n'as pas. Ouais. Tu vas avoir cherché un skill que tu n'as pas, un complément. Et souvent, des amis, la réalité, moi, je regarde, je ne recherche pas du tout la même chose dans mes collaborateurs aujourd'hui que je recherche dans des amitiés. Un bon exemple, et j'en parle et il le sait, mon chef des opérations, qui est mon numéro 2, mon bras droit, je vais fonder 10 entreprises avec lui. Je blague que c'est le gars le plus plate au monde. Parce qu'une émotion, son émotion, c'est « j'ai un plan ». Il est toujours en train de dire « il y a un plan, j'ai un plan ». Classique ingénieur, extrêmement rassurant. Mais pour moi, tu vois, dans ma vie personnelle, peut-être que je cherche des gens un peu plus flamboyants, des gens un petit peu plus extravertis.
Qui va te ressembler.
Qui va me ressembler. Ça a toujours été mon erreur. Je recherchais des gens avec qui j'avais énormément de plaisir au travail et à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on a réussi à créer un duo qui est, selon moi, le duo le plus fort que j'ai jamais eu. Pourquoi? Parce qu'on est diaporalement imposés. On s'entend sur rien, mais on finit toujours par se respecter, trouver le milieu entre nous deux.
Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as appris parce que, si je me trompe pas, dans le passé, tu as déjà eu un partner qui... C'est ça, un ami, ça?
C'était un ami, en fait. Puis la plupart de mes partners, je dirais, tu sais, j'ai eu plusieurs entreprises, la plupart de mes partners étaient toujours des amis. Même dans Connect & Go, mon associé Anthony, on est 2 vendeurs, on est 2 raconteurs d'histoires, on se craint toutes les deux. Mais la réalité, Anthony a pris un petit step down, a décidé de se retirer un peu à cause aussi de la fatigue entrepreneuriale. Et je me suis entouré suite à ce départ-là, qui était un peu impromptu. Anthony, un matin, il m'a dit, Dominique, moi, il faut que je m'en aille, je suis au bout du rouleau.
T'en attends plus.
Et hein. Je m'en attendais pas. Hein. Moi, je m'attendais réellement pas. Je me rappelle, là, c'était un petit déjeuner, puis j'étais, tu peux pas partir. Aujourd'hui, Anthony est toujours dans l'entreprise, n'est plus dans l'équipe exécutive, malgré qu'il est associé. Et ce que ça me poussait à faire, c'est que j'ai convaincu Anthony de dire, j'ai besoin d'une petite partie de tes parts pour les donner à 6 personnes autour de moi, pour à la place de me créer un duo, me créer une équipe de rêve qui vont être extrêmement complémentaires et très, très fortes. Et selon moi, ce qui fait qu'on a traversé une pandémie, traversé 12 faillites techniques, etc., c'est qu'on a une équipe extrêmement différente aujourd'hui, extrêmement soudée. Mais sincèrement, je pense que personne dans l'équipe de direction qui se considère comme des amis.
Ouais, mais tu vois, on avait promis aux auditeurs un peu de débat, là, puis on va créer de la bisbille. Hein. C'est quoi, Lady Pagaille, comme disait
Jason?
Parce que moi, j'ai toujours eu la supposition que ça prenait un noyau fort pour une culture d'entreprise. Puis c'est là où est-ce que c'est vrai que je me suis entouré de gens qui me ressemblaient, parce que l'équipe de direction de Biogénique ou dans toutes mes entreprises, je l'avoue et j'ai un peu honte de le dire, c'est très homme blanc, caucasien catholique. T'sais, on est assez uniforme, mais après ça, quand on sort de l'équipe exécutive, c'est vraiment très divers. Parce que ça m'a pris, moi j'ai vraiment la conviction solide que les 4, 5, 6 premières embauches, là, si c'est trop diamétralement opposé, tu peux pas avoir la culture que tu souhaites. Puis là, c'est là que ça commence à créer comme juste de la marde.
T'es en total désaccord.
Ah, go for it, mon homme!
2 raisons. La première chose, c'est prouvé dans toutes les études, les statistiques, que de s'entourer de gens pareils que nous va te mener à l'échec. Donc, t'entourer d'hommes blancs quand t'es un homme blanc, selon moi, c'est le réflexe, c'est le biais et c'est un échec. Après, il y a une différence entre avoir des gens qui te ressemblent ou ne pas avoir la même vision et le même alignement. Toute mon équipe exécutive sont extrêmement différents. Ils sont tous des personnes ambitieuses, ont tous envie de créer le prochain leader au Québec de notre industrie. Ce qu'ils ont, par contre, c'est des compétences et des personnalités différentes. On a 50 % de femmes dans l'équipe de direction, 50 % d'hommes, des personnalités aussi au niveau des âges où j'ai des gens qui vont frôler la fin de la quarantaine. J'ai des gens qui ont 27, 28 ans et qui sont tous dans une équipe exécutive. Donc, moi, je pense que malheureusement, beaucoup de gens cherchent à ce qu'on soit tous d'accord. Mais encore une fois, on s'appelle les dérangeants. Je pense que si on était tous pareils, il n'y aurait même pas de podcast parce qu'on penserait tous la même chose. Et trop de gens vont penser comme ça. C'est-à-dire, je vais m'entourer de gens qui pensent comme moi. Comme ça, on va aller plus loin. Moi, je pense qu'il doit y avoir du débat, mais il doit y avoir un alignement. Puis ça, on appelle ça les valeurs d'entreprise.
Mais comment
on
tu choisis ton monde, mettons, quand tu dis « je veux... » Cherche un gars plate. Cherche un gars qui a un plan. T'sais, t'as-tu fait un test de personnalité? T'as-tu fait de la psychométrie? Comment t'es allé t'assurer qu'il était... opposé à toi?
On en a fait. Je pense que la première chose qui est importante comme entrepreneur, c'est de savoir dans quoi on est bon et on n'est pas bon. Puis je considère qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui essayent de devenir bons dans ce qu'ils sont pas et que c'est une perte de temps flagrante.
Oui, parce qu'ils capitalisent pas sur leur force.
Voilà. Puis moi, encore plus comme TDAH, j'ai compris que je ne serai jamais capable d'être bon dans quelque chose que je n'aime pas et je ne vais jamais aimer quelque chose dans lequel je suis pas bon. Donc, il y a une corrélation définitive.
T'es pas bon dans quoi, mettons?
Je suis antipode de la structure. Je fais peur aux gens. Pourquoi je fais peur? Moi, je sais, on va être où dans 3 ans? J'ai énormément de difficultés à rester dans le moment présent. La réalité, le day-to-day me fait chier. Je trouve ça très, très difficile, moi, les problèmes d'aujourd'hui. Mais ce qui est dur pour mon équipe, c'est que parfois, ils me parlent des problèmes qu'on a aujourd'hui. Puis la façon que je leur réponds, c'est un petit peu comme on s'en fout parce que dans 3 ans, je sais où on va aller. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui gère le day-to-day. J'ai besoin de quelqu'un qui a un plan et qui rassure. Moi, j'ai une vision. Et il y a un excellent livre qui s'appelle Rocket Fuel, qui parle du duo intégrateur et visionnaire. Ben, FP, cette personne-là, pour moi, c'est mon intégrateur. C'est la personne qui prend ce que j'ai dans la tête et qui réussit à faire un plan. Puis sans lui, je ne vais jamais me rendre à où je veux dans 3 ans. Mais lui seul, il ne va pas avoir peut-être cette vision-là de dans 3 ans, il faut aller là, parce que moi, souvent, je le sais, mais je ne sais pas pourquoi. Et je suis juste, j'ai un feeling qu'il faut attaquer l'industrie du spa et du wellness dans la prochaine année parce que ça ressemble à un parc aquatique et un fit. Et lui, il est très data-driven, puis il dit, il y en a combien, tu passes, ça va ramener combien? Je le sais pas, mais j'ai le feeling qu'il faut y aller. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que les entrepreneurs ont et que les autres souvent n'ont pas. Mais on a besoin de s'entourer de gens très, très différents en fonction des rôles. Et moi, je me connais. C'est pas ma première aventure, mais j'ai encore un réflexe d'aller vers des vendeurs parce que des vendeurs, ça te vend le rêve. Mais aujourd'hui, je me sens loin de ces personnalités-là. Parce qu'il y a une chose dans laquelle je suis bonne, c'est closer des deals. C'est pour ça qu'on se parle plus beaucoup.
Non, exactement.
T'es rendu en immobilier, fait qu'on pourrait dire qu'on est différent. T'aimes beaucoup le long terme et la platitude.
C'est ça, moi, je veux pas perdre.
Mais moi, j'ai déjà fait l'erreur de pas m'entourer de gens assez forts, probablement à quelque part parce que j'étais trop cheap. Non, mais tu sais, c'est.
Ouais, ok, tu savais pas, tu pouvais pas les payer. T'y voulais, mais.
Ben, ou, tu sais, loin. J'étais peut-être inconfortable. Je disais, peux-tu me payer jusque-là? Ah, ben, tu sais, finalement, mais non, je vais pas payer aussi cher. Puis finalement, si tu te retrouves avec une équipe pas assez forte qui manque des fois du leadership, puis c'est pas là que tu vas pouvoir te
Mais c'est intéressant, ça, parce que, tu sais, il y a la citation, là, le oui-dire qui dit les A players want to work with A players. Là, en français, on dit les gens qui sont des A veulent travailler avec des A. Puis toi, tu dis, j'ai des A, mais ça me faisait peur.
Oui.
Est-ce que tu avais l'imposteur à l'intérieur de toi, comme on disait depuis.
Ben, je pense que oui.
Tout le monde.
Comme tout le monde là. Puis oui, tu te dis, je pense qu'à un moment donné, c'était même, je veux aller jusqu'à. Tu as des ambitions. Est-ce que je me sens à la hauteur de mes ambitions? Puis des fois, tu te rabaisses aux ambitions que tu peux avoir. Fait que puis tu te dis, si je ramène quelqu'un dans cette équipe-là avec ces mêmes ambitions-là, il va falloir que je le fasse. Fait que oui, je pense que ça a été le sentiment d'imposteur qu'effectivement. Mais au-delà de ça, on parle tantôt de savoir bien, de bien se connaître.
Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québecor. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups, Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.bc.
C'est vous, est-ce que au moment où vous êtes lancé, est-ce que vous connaissiez bien ou c'est quelque chose que vous avez acquis dans le temps?
Non, puis la réalité, moi, je veux juste, parce que je sais exactement où tu t'en vas, Dominique, avec ça, j'ai changé. Tu sais, parce que quand je me suis. Puis c'est peut-être un. On disait, tu te lances en affaires jeune, c'est le fun, t'as rien à perdre. Ouais, mais moi, je me suis lancé à 23 ans. Toi, encore plus jeune, 14.
Ouais.
La réalité, c'est que à 23 ans, puis à 30 ans, je suis pas toute la même personne. Moi, je me pensais extroverti. J'étais comme go, go, go. Finalement, j'ai 35 ans aujourd'hui, puis comme je suis un intro. Je m'assume. Puis c'est là que tu fais comme le fake it until you make it. Puis mes équipes, ça se ressentait. Était comme, ouais, Étienne, il n'est pas constant. Hein? Tu sais, des fois, il part en congrès pendant un mois non-stop, toutes les 5 à 7 ever. Puis là, après ça, j'étais comme, parlez-moi plus pendant 2 semaines. Parce qu'au fond, il fallait que je me recharge, mais je m'assumais pas. Fait que d'apprendre à se connaître, puis le plus tôt que tu te connais, c'est là que tu peux vraiment attirer des bonnes personnes. Mais vas-y donc.
C'est aussi un préjugé. Hein? On fait souvent de l'âgisme en entrepreneuriat. On a l'impression, surtout dans le monde de la tech, là, qui est un petit peu plus mon milieu, on a l'impression que les start-upers, c'est tous des jeunes. T'sais, c'est tous des jeunes qui sortent de l'université, il faut que tu sois jeune. La réalité, si tu lances une entreprise après 35 ans, tu as beaucoup plus de chances de succès. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent beaucoup plus tard, un peu parce que, comme on a eu dans un épisode avec Cathy Marquis, qui parle de « j'ai 10 ans derrière la cravate », j'ai vu des problèmes. Et la plupart des grandes histoires, j'écoutais Vention, super entreprise montréalaise, il a travaillé chez McKinsey pendant des années. Il dit « j'ai vu tellement de projets et d'entreprises ». Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas être jeune nécessairement pour se lancer en affaires. Il y a un avantage d'attendre un peu. Puis la culture est player, moi, j'y crois à 200%. Les A veulent travailler avec des A. Et malheureusement, on fait tous la même erreur et on la reproduit. On garde des B, puis on garde parfois des C. Et très, très rapidement, ça va détruire nos équipes. Puis ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel, moi, j'ai découvert de dire, je ne peux pas tolérer d'avoir des B, ce qui fait qu'on doit avoir un roulement qui est un peu plus constant, dire à des gens de s'en aller. Et tu l'as bien dit, moi, j'apprends à me connaître, on change définitivement. Je ne suis pas le même entrepreneur aujourd'hui que j'étais au départ. J'ai peut-être pas la même fougue. Moi, j'ai développé une insécurité financière parce que j'ai déjà tout perdu. Fait que depuis ce temps-là, avant, j'étais un risk-taker total. Je continue de l'avoir un peu en dedans de moi. Mais sincèrement, j'ai peur aujourd'hui de perdre parce que je l'ai vécu une fois. Donc, on change un petit peu. Je pense qu'on se développe. Puis qu'on a besoin de s'entourer. Puis pour moi, il y a s'entourer en affaires. Il y a s'entourer à l'extérieur.
Sans psychologue. Il n'y a pas juste les équipes. Il y a les mentors et les psychologues, comme tu dis.
Mais un exemple vraiment flagrant d'un gars qui tu sais, l'art de s'entourer, là, puis il l'a appliqué à l'extrême. Puis j'admire ça. C'est le fondateur de Flight Hub. Qui est une entreprise québécoise. On s'entend, le gars, pendant la pandémie, je pense qu'il était à 600 employés. Ouais. Tu sais, c'était pas loin. Écoute, je me rappelle plus des chiffres, mais c'est quelque chose comme 50 millions par mois de chiffre d'affaires. Peut-être j'exagère un peu.
De revenus de volume transactionnel, ce qui est un peu différent. De vol, en fait, qui se boucle sur la plateforme.
Exactement. Merci de me corriger. Puis pendant la pandémie, je veux dire, il est passé, il restait 5 % de son chiffre d'affaires. Tu fais quoi quand tu as 600 employés? Bien, tu coupes 90 % du monde mis à la porte ou en temporairement. Mais il a gardé son 10 % de Wayne Gretzky. Puis je l'ai vu en conférence, il disait finalement, écoute, on a perdu 90 % de nos effectifs, mais seulement 50 % de notre efficacité puis notre efficience.
Oui.
Parce que finalement, on a coupé dans le bois mort. Puis aujourd'hui, là, ça fait plusieurs family office capital de risque qui me disent, moi, quand je rencontre un entrepreneur qui me dit, je veux passer de 50 employés à 500.
C'est pas ça le succès.
Je m'en vais, je quitte la pièce. Moi, je veux quelqu'un qui me dit « j'étais à 100 employés, puis je vais en avoir 20, puis je vais faire double de revenus. »
C'est fou, on dirait que c'est valorisé, justement. On dit tout le temps « ah, t'as combien d'employés? » Comme si c'était comme
c'est ça, la mesure.
C'est la mesure de succès. Puis dans le fond, moi, c'est ça qui est arrivé dans la pandémie. J'ai coupé, puis finalement, je suis plus effective avec moins de payroll, puis finalement, je suis plus rentable.
Ben oui, c'est hot. Puis tu sais, le meilleur exemple, je veux dire, c'est des, je veux pas, des institutions financières, là, où est-ce que, tu sais, c'est vraiment comme… Ils calculent même pas en termes de FTE, full-time equivalent, ils calculent en termes de headcount, nombre de personnes. Mais la quantité de petites madames qui travaillent temps partiel, fait que là, sinon, c'est des entreprises de 50 000 employés. Ouais, mais tu sais, c'est pas efficient, c'est pas efficace. Moi, j'appelle pas ça du tout une mesure de succès.
Je pense pas que c'est une mesure de succès. Après, la réalité, tu sais, si on veut créer de la richesse, oui, il faut créer des emplois. Je pense que ça reste important.
La réalité des Facebook contre, de ce monde, mettons, tu sais, c'est. Je pense que leur statistique, c'est qu'ils font 1 million de revenus par employé.
Effectivement, exactement.
Ça, c'est la meilleure métrique ever. Alors que quand je suis pas mal sûr, quand tu prends des entreprises, tu sais, si tu as un employé qui te coûte 75 000 puis tu fais 80 000 de revenus par employé, tu es dans marde, là.
Oui, puis c'est encore une fois, le nombre d'employés, je pense que c'est pas la mesure de succès. C'est est-ce que tu as les bonnes personnes pour accomplir le plan que tu as? Puis c'est quoi tes ambitions aussi d'aller où tu veux? Tu sais, la réalité. Je pourrais pas à 20 personnes faire ce que je veux faire. Je veux devenir un leader international dans le monde des hautes technologies. C'est impossible de faire ça à 20. On va avoir besoin de monter à 100, 150 personnes. Puis moi, ce qui me fait peur d'en s'entourer aussi, c'est comment on perd pas notre culture. T'en parlais, comment on garde les mêmes valeurs. Et ça, on peut créer un paquet d'initiatives, je trouve, pour être capable de garder ce noyau-là. Mais il faut aussi penser à une autre chose qui est importante pour moi, c'est que le cycle de l'entreprise fait que tu dois changer les gens.
Ben oui.
Et ça, c'est un des trucs que moi, j'ai trouvé le plus difficile.
Puis est-ce que tu dois changer l'exécutif?
C'est généralement eux. Moi, la réalité, j'ai dû laisser aller presque tout le monde. Et sans vouloir le dire comme ça, ça se pourrait que dans 2 à 3 ans, je doive laisser aller 70 % encore une fois de mon équipe exécutive parce que le 0-1 million, le 1-5, le 5-10,
c'est pas les mêmes personnes,
le 20-25, le type de skills, et même je me questionne moi-même.
Mais toi-même, est-ce que c'est la bonne personne?
Est-ce que je serai la bonne personne? Et je ne pense pas. Donc, je pense que je sais aujourd'hui jusqu'où je peux l'amener. jusqu'où je suis utile, jusqu'où je suis bon. La réalité, on voit des histoires, tu sais, Lightspeed, qui est un succès québécois, on parle beaucoup de Dax Da Silva, qui a été le fondateur. Mais la réalité, très, très tôt, un JP Chauvet, qui est aujourd'hui le président, a rejoint, puis c'est lui qui a roulé le show. Parce que Dax, probablement, avait d'autres aspirations à ce moment-là, puis était rendu au maximum. Puis je pense que comme fondateur, la première personne à qui on doit penser, c'est qui va nous remplacer? C'est quoi notre plan pour la suite? Et par la suite, ben, on devrait avoir un plan dans chacune de nos équipes, définitivement, pour savoir qui peut prendre la place de l'autre. Parce que bien s'entourer, c'est aussi accepter qu'on change, accepter que l'entreprise n'a pas les mêmes besoins. Et souvent, je dis qu'il n'y a pas de mauvais employés. Il y a des employés dans la mauvaise chaise. Et si on les laisse dans la mauvaise chaise, ben ça va pas bien aller. Donc,
le meilleur exemple, c'est Cascade. Ils étaient trois frères, puis ils s'alternaient selon les phases de l'entreprise. Google, même chose. C'était Eric Schmidt, puis Larry Page, ou Sergey Brin. Ça dépendait si c'était en wartime ou en peacetime. C'était pas le même PDG en fonction de ça, sans nécessairement quitter complètement l'entreprise. Toi, Marc-Claude, tu te vois-tu à un moment donné donner ta place ou...
L'entreprise familiale, c'est plus difficile comme ça. Je vais peut-être la vendre avant puis faire d'autres choses. Mais là, on parle beaucoup de la business, des gens qui sont dans la business. Mais tu sais, autour de nous, bon, on a nos familles, on a des mentors. Tu sais, pour bien s'entourer, on parle souvent, on parle de santé mentale, justement. On doit prendre des décisions, santé physique. Tu sais, moi, mettons, pour passer au travail, il a fallu que je m'entraîne dans la dernière année. C'était super important, avoir le bon entraîneur. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, votre écosystème? T'sais, c'est parce que moi, je vois ça comme ça. Là. Moi, je pense que ma plus grande source, ça a été de m'entourer autour de moi. Parce que, tu sais, je pense à des plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement un conseil d'administration, qui sont toutes seules à la tête, qui ont leurs employés. Des fois, tu as des enjeux. C'est de construire cet écosystème-là autour de toi. Moi, je pense que ça a été ça, de construire ces relations-là. Vous, votre écosystème, il ressemble à quoi aujourd'hui, après 15 ans, 30 ans?
C'est une super bonne question parce que moi, j'ai toujours dit, puis je l'avais dit dans d'autres épisodes de podcast, qu'un mentor, c'est un an. Tu changes parce qu'après ça, t'as pas mal, ta phase est différente, t'as épuisé. Puis au début, j'étais comme, OK, il faut changer de mentor. Faut que tu, toujours la croissance, tu changes les équipes. Puis j'arrive à un point dans ma vie où est-ce que je suis épuisé de changer, puis de vraiment de renouveler des relations, puis tu repars la cassette, puis le learning curve qu'on dit. Je me demande, je me questionne si c'était la bonne approche, parce que là, au contraire, dans mon entourage, tu sais, vous êtes probablement les personnes à qui je parle le plus. Puis, ça me ferait chier de devoir partir à zéro avec des nouvelles personnes. Puis, j'ai pas l'énergie pour ça. Fait que je pense que ça prend vraiment un noyau fort autour de l'entrepreneur qui est à la limite pas en tout lié à la business. Fait que là, tu parles pas business, pas en tout. Mais dans tes entreprises, là, t'es plus, je veux dire, autiste ou t'es plus vraiment axé sur les résultats. Puis là, s'il peut y avoir un roulement. Mais c'est épuisant le roulement de personnel puis de repartir des relations à zéro. Là. Je sais pas ce que tu en penses, Dan.
Tu as parlé de santé mentale. Là, c'est un sujet qui me touche énormément personnellement. Je pense que comme entrepreneur, malheureusement, on s'oublie énormément. T'sais, on va faire passer tout avant nous. Puis un des trucs définitivement, puis j'avais écouté un de vos épisodes, je pense, dans le passé, où tout le monde était surpris de savoir que tout le monde avait un psy.
Oui, Catherine Beauchamp était comme sur le choc, elle était comme, faut-tu que je m'en prenne un moi aussi, finalement?
Mais pour moi, tu vois, c'est un premier conseil, c'est on a besoin d'être psychologique, parce qu'il y a des choses que je peux pas dire à ma femme. Il y a des choses que je peux pas dire à mes parents, que je peux pas dire à mes employés. Il y a des choses que je peux pas dire à mes associés. La réalité, pour moi, c'est un psychologue, c'est aussi une confidente, un confident, quelqu'un avec qui on peut parler. Donc moi, il y a la portion santé mentale sur laquelle on doit s'entourer. 50% selon Harvard Business School, des entrepreneurs souffrent de troubles mentaux. Moi, je pense que l'autre 50% n'a pas été mis au courant encore. T'sais, parce qu'il n'y a personne de sain d'esprit qui dit « je vais me lancer en affaires ». C'est fou de faire ça complètement. Donc, je pense que l'aide psychologique...
C'est fou quand on dit ça, parce qu'on dit « troubles mentaux », puis juste qu'on fasse la nuance, c'est pas maladie mentale.
Ça en fait partie, par contre. C'est
exact,
énormément de maladies mentales aussi.
Tu peux y avoir
le TDAH,
une tendance,
dyslexie, etc.
Exact.
Donc, pour moi, il y a ça. Une chose que moi, j'ai énormément délaissée pendant des années d'entrepreneuriat, c'est ma santé physique. Je continue de me rendre compte aussi que si t'es pas en forme physiquement, souvent tu vas pas être en forme mentalement. Donc l'importance de l'entraînement, l'importance de sortir définitivement, je pense que c'est crucial. Parce que si vous êtes en énorme surpoids, la réalité, l'entreprise va être affectée. Et ça, c'est très, très important. Et le cercle. Moi, je l'ai vu, par exemple, j'ai des amis entrepreneurs. Si ta conjointe, ton conjoint, ta famille, tes amis t'encouragent, ça change toute la game quand ça va mal parce que tu sais que t'as un support. Mais moi, j'en ai vu des fois que dans lequel, il y avait pas nécessairement le réseau social autour d'eux. Puis c'est vrai que si t'as personne autre que ta business, puis si tes amis, c'est les gens dans la business, quand ça va aller mal partout dans ta vie.
Tout et on doit créer cette bobe-là. Professionnel, financier, personnel. C'est sûr que ça va te rentrer dedans. Il faut que tu fasses des coquilles.
Le CA des dérangeants, une présentation de Kaira Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kaira Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets.
Tu sais, mettons, je serais curieux d'avoir votre opinion. Là, on entend des outils comme Office Vibe pour vraiment monitorer la satisfaction de tes employés. Comment vous faites, vous autres, pour savoir si c'est toujours la bonne personne? T'sais, est-ce que j'ai toujours un A à cette chaise-là ou c'est rendu un B ou un C? Comment est-ce que vous êtes réactif sur cette vigie-là?
Merci, allez, Marie-Claude.
T'sais, moi, en étant plus petite entreprise, je te dirais que le pouls, je le sens assez vite. Là, j'ai pas besoin d'un office vibe pour le savoir. T'sais, je veux dire, je rentre le matin.
Elle rentre dans ton bureau, puis elle crie, puis elle chiale.
Tu le sais assez rapidement. Là. Puis, t'sais, dernièrement, mettons, c'est sûr que là aussi, t'sais, je peux le voir en étant moins dans le bureau. Je vois aussi comment ça se passe. Fait que, tu peux avoir une meilleure idée. Puis des fois, il y a aussi des gens que tu sous-estimes puis qui deviennent des beaux fleurons. Là. Fait que, j'ai pas besoin de ça. Je pense que c'est d'avoir des bonnes discussions, par exemple. Moi, je crois beaucoup à la discussion puis de rencontrer les gens puis de vraiment voir avec... T'es où, toi? Comment ça va? Puis des fois, savoir comment ça va aussi les week-ends, ça t'en dit beaucoup sur où est-ce que la personne se situe. Puis c'est important d'avoir des discussions humaines pour vraiment déterminer où est-ce que la personne en est dans ton entreprise. Puis au niveau plus comme, mettons un peu plus équipe, je pense que ton gut feeling aussi te le dit avec où est-ce que tu veux aller puis comment est-ce que la réception des gens. Fait que je pense qu'il faut que tu t'écoutes puis intuitivement, souvent, tu le sais. Puis des fois, tu veux pas l'écouter, mais qu'au fond de toi, tu le sais.
Ça, c'est vrai. Ça m'est arrivé vraiment souvent. Chez nous, évidemment, on est un petit peu plus gros. Ça amène un peu plus d'outils. J'ai parfois le feeling, mais la réalité, je suis plus capable d'être groundé sur l'entièreté de l'équipe, etc. On a un outil qui sera peut-être même intéressant à mettre sur les dérangeants qui s'appelle le People Analyzer.
Nice.
Sur lequel on a, entre autres, des piliers. Donc, nous, qui ressemblent un peu à des valeurs, le Growth Mindset. Donc, on a déterminé ça et à chaque trimestre, on fait l'analyse de 100% des employés. Donc, de l'équipe de direction jusqu'à l'entièreté des employés. Et si tu ne scores pas à un niveau très, très élevé, on te met sur ce qu'on appelle un coaching plan. Donc, tu as le droit à une fois de ne pas être un A-player. On va te mettre sur un coaching plan et te ramener A, sinon on doit te laisser aller. Et c'est très analytique et ça vient encore une fois de m'entourer de gens différents. Moi, je suis au feeling. J'embauche par amour et je vire par amour. Je t'aime, je t'aime pas. C'est très émotif. J'ai un bon feeling. Mon CEO a besoin de data. Donc, on a réussi dans cet outil-là à mélanger deux choses. Du data factuel, c'est-à-dire, OK, growth mindset, il y a une description de c'est quoi. Est-ce que cette personne-là avait cette attitude-là? Est-ce qu'elle a cherché de l'aide? Est-ce qu'elle est allée chercher du coaching? Quand on lui a offert une perche, est-ce qu'elle l'a pris? Dès le moment qu'elle ne l'a pas pris, elle perd des points définitivement. Donc, on est capable d'avoir un outil qui est ultra data. Donc, il est vraiment très froid d'une certaine façon. Mais on rajoute quand même une certaine couche humaine par-dessus sur le feeling.
Oui, mais tu es capable d'avoir une mesure au travers de ça. C'est pas juste dans le sentiment et l'émotion.
Et l'équipe de direction fait la même chose avec moi. On en parlait tout à l'heure. Alors, l'important de savoir, moi, je me questionne souvent, est-ce que je suis un bon leader? Puis dernièrement, ça fait peut-être 8 mois, ça avait été surprenant pour mon équipe de direction. Je les ai rencontrés en cercle de coaching. Puis je les ai dit, j'ai plus de fun. En fait, j'avais réalisé que mon équipe, un peu comme tu disais, était tellement rendue orientée, structure, que moi, j'avais plus le droit d'être créatif. Moi, je sentais que je les dérangeais avec ma vision. Puis à chaque fois, ils me ramenaient, disaient, okay, calme-toi, là, on a besoin de régler nos problèmes.
Ouais, mais t'es-tu à l'emploi de ton équipe ou est-ce que tu dois?
Un peu, ben, tu vois, la discussion a amené ça.
Je pense que oui.
Puis on a réussi à retrouver. En fait, la réalité, j'ai découvert que si je suis pas heureux, je ne vais pas driver la business. J'ai besoin d'être bien. Mais en équipe, eux autres m'ont dit, garde, voici tes forces, comment on t'aime comme leader. Voici les trucs sur lesquels on a plus de difficultés. Puis avec cet outil-là, ben ça m'a fait aussi réfléchir à « je ne serai pas le PDG d'une entreprise de 500 personnes ». C'est pas mon profil, c'est pas mon style, c'est pas mon plaisir non plus.
Clairement que ça t'a aidé à apprendre à te connaître puis à voir aussi c'est quoi tes limites.
Continuellement.
Puis j'ai l'impression que c'est là que aussi en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix de travailler sur soi beaucoup plus parce que tu es responsable de d'autres gens.
Oui. S'il y a un conseil que je donnerais, là, quand vous avez un feeling que quelqu'un est un B, souvent c'est le meilleur vendeur. Souvent, parce qu'il faut faire attention, on dit qu'on embauche pour les compétences puis qu'on vire pour l'attitude. Il faut faire attention parce qu'on garde malheureusement énormément de gens sur lesquels on avait un feeling de dire « Ah, cette personne-là ». Puis moi, l'équipe de direction, là, tu vois, il y a une personne, dernièrement, ça fait 4 fois que son nom revient. De dire « Ah, telle personne, on n'est pas sûr ». Dès le moment qu'on n'est pas sûr, je pense que la décision doit être prise très, très rapidement. Parce qu'encore une fois, les A, s'ils sont entourés de B, ils s'en vont. Puis ça coûte extrêmement cher de perdre des A. On doit être de plus en plus dur, de plus en plus catégorique. Et ça, ben, quand tu donnes des bonnes conditions, nous, on fait du 4 jours semaine, on offre des conditions extraordinaires à nos employés, mais on peut se permettre aussi d'être un petit peu plus dur
c'est
et de s'assurer
bon
qu'on garde des A.
Pis c'est là que tu me fais réfléchir, puis peut-être que j'amènerai une nuance où je ne suis pas d'accord, c'est que je le vis en ce moment dans une de mes entreprises où est-ce qu'une personne qu'on n'est pas sûr, Mais la personne, elle a 25 ans. Puis, tu sais, ça fait 4 mois qu'elle est là. Est-ce que c'est ma job, mettons, de la virer tout de suite ou c'est peut-être moi qui...
Coaching plan, t'as 3 mois.
Exact.
La réalité, une personne...
Fait qu'une personne a une chance.
Il faut qu'il y ait une chance, puis il faut, comme leader, il faut que tu sois capable de l'accompagner à la prochaine étape. Mais la réalité de repousser, trimestre après trimestre, les discussions difficiles. Combien de gens s'empêchent de dire à un employé « Tu ne livres pas la marchandise en ce moment parce qu'ils ne sont pas capables de l'affronter. » Et je les comprends. Moi, sincèrement, je suis tétanisé à chaque fois avant que je parle à un employé de devoir lui dire qu'il n'a pas livré la marchandise. C'est difficile, surtout si c'est des gens proches de toi.
Il faut que une préparation mentale puis une structure pour être capable de leader la conversation.
Mais c'est un manque de respect. Pour moi, c'est la culture du feedback, qui est une culture très importante à mettre en place dans vos organisations. Et si tu ne le fais pas, ben, c'est pas bon pour l'organisation, mais c'est pas bon pour cette personne-là qui pourra pas se développer puis s'améliorer.
Et quand tu le fais en mode coaching, je trouve que c'est là que ça apporte de la valeur.
100%.
Mais combien de fois on a entendu l'histoire, c'est un peu typique, là, comme tu sais, celle-là un peu d'épouvantail, où est-ce qu'on a une nouvelle recrue, ben, une embauche, là, que c'est comme la vice-présidente de notre compétiteur aux ventes. Puis là, on est comme, ah yes, on était capable de la scorer, on lui a donné un gros bonus à signature, elle nous coûte 1,5 fois le salaire normal d'un employé, mais elle va venir avec tous ses leads, tous ses anciens clients, ça va être payant.
Ça va souvent mal finir.
Puis là, mettons, après 3 mois, ah, ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'elle s'intègre, mais là, on se rationalise, puis on se dit, mais non, mais c'est pas grave, là, tu sais, elle a tout son logbook, ça va vraiment être payant un jour. Puis là, finalement, après 6 mois, on se rend compte qu'elle n'a pas vraiment converti grand client encore, mais elle nous coûte son gros salaire. Puis là, les autres vendeurs commencent à être un peu jaloux, puis à chier, puis à chigner, que comme, mais c'est comme du bois mort, finalement, cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Mais on a fait le call, puis ça nous a tellement coûté cher depuis 6 mois avec le bonus qu'on veut pas se l'admettre.
Mais ce qui coûte le plus cher, c'est de pas prendre la décision.
Exact.
Ça, c'est définitif.
Puis là, finalement, après 1 an, on décide de la mettre dehors, mais ça nous a vraiment coûté, on aurait dû la prendre après combien de temps?
Parce que j'ai aimé ça comme conversation, les gars, parce que clairement, on avait des idées qui étaient pas toutes pareilles. Donc, merci d'avoir été avec nous pour parler de comment l'art de bien s'entourer.
Merci, Marie.
Merci à toi.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants!